La radio est un art aveugle.
Yeah, it's quite cool.
Et ensuite,
au début, c'était des déformations, c'était des coupures.
Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe.
Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus.
Énormément, très méchants.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper, un podcast qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnante et passionnée. Avant de découvrir celle qui est actrice du podcast aujourd'hui, notre petite citation. Pour lire un roman, il faut 2 ou 3 heures. Pour lire un poème, il faut une vie entière. Citation de Christian Bobin. La personne qui est notre invitée, qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, eh bien, elle s'appelle Iocasta Huppen. Elle est bruxelloise d'origine roumaine et elle vient de sortir un recueil de poésie qui va éveiller tous vos sens. Ça s'appelle Maison d'été. C'est paru aux éditions Parti Pour. Et moi, je vous propose tout de suite, eh bien, de découvrir Iocasta Huppen et elle va un petit peu se présenter à vous pour commencer.
Je suis auteure de haïku, poésie, animatrice d'ateliers d'écriture, chroniqueuse littéraire pour Radio Laser et l'initiatrice du Kukai de Bruxelles, qui est un cénacle qui regroupe des auteurs de haïku.
Donc Radio Laser, c'est une radio à Rennes et c'est en France. Alors, qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'écrire ? Est-ce que c'est quelque chose de récent ou bien ça fait longtemps que vous écrivez ?
Lorsque j'étais adolescente en Roumanie, j'aimais beaucoup la poésie. J'avais écrit quelques poèmes en rime, en roumain, mais j'ai trouvé cela très très compliqué. Et puis les études, la vie a fait que je laissais un peu de côté cette envie d'écrire. Et ici, en Belgique, en 2013, j'ai rencontré une Japonaise qui vivait et en discutant avec elle, elle m'a donné envie de m'intéresser au haïku et j'ai commencé à écrire des haïkus et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui et c'est grâce justement au haïku que je suis arrivée à la poésie sans rime. Tout ce que je ne peux pas exprimer avec la poésie brève, je l'exprime avec les poèmes un peu plus longs.
Et votre style au fil des années, est-ce qu'il a évolué et si oui, pourquoi
Le style évolue en fonction des rencontres que je fais. Par exemple, décembre 2020, une personne sur Facebook a partagé un poème, un pantoum. C'est un poème en rime croisé d'origine, un genre malais de poésie. Et je me suis lancée. Et je m'y plais beaucoup dans l'écriture de ce genre. Donc, mon style dans le haïku, pour répondre à votre question, a évolué dans le sens que je respecte un petit peu plus les règles de rédaction. Il y a aussi les quelques exceptions. Pour la poésie sans rime, il n'y a pas vraiment de règles à respecter, sinon une certaine musicalité pour donner l'impression que c'est de la poésie et pas de la prose sous forme de poème. Ça, je fais très attention. Et puis, avec ce nouveau genre qui est le pantoum, là, les possibilités sont infinies de création. Il suffit d'avoir un dictionnaire des rimes et on est parti, une fois les 4 vers écrits, on est parti.
Avant de publier vos livres, est-ce que vos œuvres étaient publiées dans des magazines ou sur Internet ?
Non. J'ai commencé avec le haïku, j'ai eu un premier livre assez vite, mais comme c'était le premier, il est paru dans une édition à moitié à compte d'auteur et 10 livres, mais c'était le premier livre et donc il faut commencer quelque part. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la publication dans des revues, participation à des concours, les prix que j'ai eu aussi. Finalement... Tout compte fait, quand j'étais en Roumanie, j'avais fréquenté un cénacle de science-fiction. J'avais écrit une petite nouvelle qui avait plu à un certain nombre de participants. Et il y a eu un étudiant qui m'a proposé de publier cette petite nouvelle dans leur fanzine de science-fiction. Mais c'était la seule participation avant les livres.
Et justement, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu envie d'être publié, de sortir vos livres ?
Lorsque j'ai découvert le haïku, je me suis sentie tout de suite à ma place avec ce genre de poésie. Et en me sentant à ma place et voyant que ça plaît aux gens autour de moi, les personnes qui me lisaient sur Facebook au départ, ça m'a donné envie de publier, de me faire publier. pour moi, c'est un aboutissement, publier un livre. Écrire dans son coin, c'est bien, mais assez vite, je visais de quitter ce domaine amateur pour aller vers un domaine plus connu, plus grand, large public que celui qui me suivait.
Quand on écrit de la poésie, hein, comme vous faites, est-ce que c'est plus difficile de trouver un éditeur que, par exemple, les personnes qui écrivent des romans ?
Je pense que le parcours peut être le même. Il faut avoir de la chance, il faut rencontrer les bonnes personnes. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Moi, j'ai commencé chez Eddy Livre, qui est une bonne maison d'édition pour un premier livre à moitié compte d'éditeur-auteur. Mais il ne faut pas rester avec un autre livre dans ce genre de maison d'édition parce qu'on s'enferme un petit peu et on est aperçu autrement par les chroniqueurs, par les journalistes qui pourraient parler du livre. Donc, à partir de là, il faut chercher des maisons d'édition qui répondent à nos attentes, rencontrer les éditeurs, voir si les liens personnels aussi avec l'éditeur ou l'éditrice conviennent, parce que ça peut ne pas convenir en termes de personnalité aussi. Il y a plusieurs facteurs. Donc, la personnalité de l'éditeur, voir comment il suit ses auteurs une fois publié, est-ce qu'il s'implique, comment, voilà. Donc tout ça, la présentation même du site internet d'une maison d'édition est très importante pour la visibilité de nos livres.
Pourquoi la poésie et pourquoi ne pas avoir écrit un roman, par exemple ?
Oui, c'est une bonne question. Avant de découvrir le haïku, je me suis essayée aux nouvelles pour les enfants. Donc, mon fils est né en 2006 et en lui lisant des livres pour enfants, j'ai eu envie de rédiger aussi une petite histoire. J'ai commencé, mais je ne me sentais pas à ma place. Donc, je faisais lire mes écrits à mon mari, qui est scénariste BD, qui a une habitude de rédaction de textes. Et il disait, là, tu dois reprendre, tu dois retravailler, ça ne va pas assez bien. Et donc, j'ai laissé un peu cela de côté. J'ai été en contact avec Maureen Dore et sa maison d'édition, et elle était partante pour publier mes nouvelles pour les enfants, à condition de reprendre certains points du récit. Mais elle était partante. Et une fois découvert le haïku, tout cela a été mis en arrière-plan, et je me consacre vraiment à 100% à la poésie.
J'ai fait quelques recherches avant de préparer cette émission. J'ai vu que vous aviez initié le Koukaï de Bruxelles. Alors dites-nous un petit peu, le Koukaï, c'est quoi exactement ?
Le Koukaï, c'est un terme japonais qui désigne une rencontre avec des auteurs qui écrivent des haïkus. En fait, dans d'autres termes, c'est un cénacle littéraire qui regroupe des gens, qui amènent des textes écrits, on les lit de façon anonyme, on choisit ceux qui nous plaisent et on passe un bon moment comme ça. Il peut y avoir des questions sur la théorie du haïku, si un auteur veut qu'on retravaille ses textes, mais en règle générale, au Koukaï de Bruxelles, on ne retravaille pas les textes des gens. Le Koukaï à la japonaise, c'est comme ça qu'il fonctionne. Les auteurs se présentent et les autres modifient leur texte, et cela est accepté sans problème. Nous, en Occident, ici, on ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et donc, on se retrouve 6 fois par an à la Fleur en papier doré à Bruxelles, le café des surréalistes. Le Koukaï existe depuis 2014. On ne s'est pas toujours retrouvé ici à la Fleur en papier doré, mais quasi depuis tout, enfin, à part les 2 premières rencontres, on est là à nous retrouver 6 fois par an. Le confinement, les mesures sanitaires ont fait qu'à un certain moment, j'ai dû organiser virtuellement ces rencontres, et maintenant avec un nombre réduit de participants, en espérant qu'au mois de novembre pour le prochain, on puisse réunir comme avant, sans limitation de personnes.
Haïku, vous venez d'en parler, c'est quoi exactement ? Est-ce qu'on peut dire que le haïku, c'est de la poésie ?
Oui, malgré ce que certains auteurs peuvent dire, le haïku peut être considéré aussi, d'ailleurs il est dans la catégorie poésie brève d'influence japonaise, et donc le haïku est une forme codifiée de poésie. Il est apparu au Japon, il y a Basho qui l'a popularisé, mais pas sous le terme du haïku, à l'époque de Basho, qui était un moine et un poète bouddhiste japonais, s'appelait, donc le genre s'appelait haïkai. À l'époque de Bachot, le haïkai était une poésie un peu grivoise et lui, il a trouvé que la nature n'était pas suffisamment mise en avant. Donc, d'un poème collectif qu'on appelle le renga, il a sorti les trois premières lignes et il les a mises en avant en parlant de la nature. Après lui, il y a Yushiki, un autre moine bouddhiste, qui s'est rendu compte que le terme haïkai était un peu passé, et c'est lui qui a créé le terme haïku. Haïku qui est une contraction entre haïkai qui veut dire amusement et oku qui veut dire court. Donc c'est Shiki, le père du haïku moderne, et Basho, c'est le père, comment dire, un peu de cœur du genre. Le haïku, il faut le voir aussi comme une façon de laisser de côté un peu son quotidien, se poser, regarder autour de soi, regarder les images simples de la vie de nature, une feuille dans le vent, des gouttelettes dans l'eau d'une fontaine. Et en faisant cela, on oublie un peu ses soucis, ses tracas, son quotidien, et ça peut être aussi une forme de méditation, le haïku, l'écriture.
C'est un côté zen, alors, le haïku, si je comprends bien.
Disons que zen, si ça rejoint la forme de méditation qu'on peut ressentir en le faisant. Parce que le haïku doit être exprimé de façon simple, avec des mots simples, présenter son quotidien. Est-ce que son quotidien est zen tout le temps ? Non, je ne pense pas. Mais la zénitude rejoint cette forme de méditation qu'on peut ressentir lorsqu'on se met à l'écart et qu'on regarde la nature.
Votre dernier recueil s'appelle Maison d'été. Alors dites-moi un petit peu ce que c'est Maison d'été. C'est de la poésie, c'est du haïku. On va y trouver quoi pour ceux qui ont envie de l'ouvrir et de le lire ?
Oui, en fait, Maison d'été regroupe plusieurs genres sur une thématique, la thématique des vacances. Donc il y a des haïkus, il y a des senryu, qui est un genre semblable au haïku, mais avec un ton comique et un peu ironique. Il y a des poèmes sans rime, il y a des poèmes aussi sur cinq lignes à la japonaise, le tanka, qui répond aussi à des règles strictes, et son pendant, le gogyoshi, qui est beaucoup plus libre. Il y a des phrases poétiques aussi. Donc, c'est un journal de vacances, et ces différents genres poétiques font qu'on passe facilement d'une sensation à l'autre, complétée par les illustrations de Justine Augury, qui sont vraiment superbes. Donc voilà, mon but était, c'est mon premier livre qui regroupe autant de genres poétiques.
On n'est pas obligé de lire comme un roman, c'est-à-dire qu'on peut le commencer au milieu, le commencer à la fin. Donc c'est voilà, on lit un petit peu ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut.
Tout à fait. Exactement. Même si le début et la fin ont été construits pour se répondre un tout petit peu. À part le début et la fin, le milieu, on peut l'ouvrir au hasard et prendre un poème ou une phrase ou même un petit morceau de prose. Et on s'attarde sur les vacances dans le Limousin en France.
Donc l'illustratrice de Maison d'été, c'est Justine Gury. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà ?
Non, en fait, elle m'a été présentée par un ami auteur BD, un ami de mon mari, Serra. Au départ, c'est à lui que j'avais envoyé le manuscrit. Et il l'avait beaucoup aimé, mais il avait dit que le ton de mon manuscrit ne convenait pas à sa façon de dessiner. Donc, il m'a conseillé de contacter Justine Gury, qui était une de ses élèves à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Je lui ai envoyé mon manuscrit, ça lui a plu tout de suite. Et c'est ça qui est vraiment touchant, c'est que pendant qu'elle a fait toutes ses illustrations, elle ne m'a passé aucun coup de fil. Ça veut dire qu'elle a eu toutes les réponses dans mon manuscrit, elle n'a pas eu besoin d'informations et de questions, des réponses à des questions particulières. Ça lui a plu, ça lui a parlé tout de suite, le manuscrit. Et je trouve que, comme j'ai dit dans une publication sur ma page Facebook, je la considère comme mon âme sœur en termes de collaboratrice sur ce livre. Elle se place comme illustratrice jeunesse, et celui-ci, c'est son premier livre en tant qu'illustratrice.
Est-ce que si on a envie d'écrire des haïkus, est-ce qu'il y a, il y a des règles à suivre? Si par exemple demain ou même ce soir je rentre chez moi, j'ai envie de commencer à écrire des haïkus, est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois faire attention ou des règles que je dois suivre?
Oui. Si vous voulez écrire des haïkus, oui. Si vous voulez écrire des tercets d'influence haïku, là, il y a plus de liberté. Mais pour le haïku, il y a 15 règles à respecter et 9 exceptions à ces règles. Je les ai répertoriées dans mon livre atelier qui s'appelle « Poésie brève d'influence japonaise » paru chez L'Harmattan. Je regarde l'année en 2019. Il y a ces règles. Les principales sont le nombre de syllabes, le verbe qui doit être utilisé au présent, il y a moins d'adjectifs à utiliser, un mot de saison, obligatoirement, si c'est un haïku. Si c'est un tercet, vous pouvez ne pas avoir un mot de saison. Par exemple, nous sommes encore en été, il y a la mer, le soleil, ce sont des mots de saison. Et comme nous ne sommes pas plus japonais que les japonais eux-mêmes, nous ne pouvons pas respecter ces règles, par exemple les 17 syllabes, à chaque fois qu'on écrit un haïku. Donc la pratique accepte qu'on ait une ou deux syllabes en plus ou en moins, c'est tout à fait accepté. Et parfois on peut faire même dans un recueil, on peut faire un petit exercice de style, on met un adjectif par ligne ou un verbe par ligne, mais c'est de façon ponctuelle ce genre d'écriture. Sinon le haïku doit avoir un seul verbe, parfois même pas de verbe du tout. Oui. Mais c'est un exercice... c'est la pratique qui va faire que notre façon de raisonner va se donner selon cette obligation, cette contrainte, et on va être surpris de la facilité avec laquelle le haïku sort de lui-même selon les règles et les exceptions.
Comment s'appelle un auteur ou une autrice de haïku?
Un haïjin. En Europe et au Canada, haïkiste.
L'écriture, c'est quelque chose que vous faites à temps plein?
Oui, tout le temps. Au départ, j'étais tout le temps en train de regarder par la fenêtre. J'attendais les images. Maintenant, il suffit que je me mette, avec la pratique et les années, donc j'écris depuis 2013, il suffit que je me mette à la fenêtre. Il y a l'image qui m'inspire. Je note le texte, ça peut être aussi un tercet, ça peut être un senryu, donc avec un ton comique. Et deux ou trois... Et c'est bon sur la journée. Avant, je m'obstinais à écrire 10, 15, 20 textes par jour. Après, je devais les trier lorsque j'allais les compiler pour un recueil. Mais en fait, tout est bon, tout doit être noté. Parce qu'on ne peut pas savoir, certains sont retravaillés, d'autres pas. Mais il faut noter tous les textes qui nous viennent à l'esprit sur le moment même.
Vous avez une sorte de discipline d'écriture, c'est-à-dire que vous écrivez tous les jours au même moment, que vous buvez peut-être un thé avant de commencer à écrire, que vous n'écrivez que la nuit?
Non, jamais la nuit. J'ai une terrasse, j'habite dans un appartement et cette terrasse, elle est petite, mais avec beaucoup de végétation derrière. Et c'est vraiment, c'est très inspirant. En fait, je me disais, c'était pas nécessaire que j'aille au bout du monde. Ce bout de terrasse avec cette verdure est suffisamment inspirant. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes dans l'année qui sont beaucoup plus inspirantes pour moi. C'est lorsque les beaux jours arrivent, donc dès le printemps, quand je sors sur cette terrasse. Mais je peux écrire aussi en regardant par la fenêtre. Mais j'ai pas de moment particulier dans la journée quand j'écris, non. Tout dépend de ce que je ressens. Et puis, avec les pantoums, les vers croisés que j'écris maintenant, ces poèmes qui sont très construits, là, j'ai eu peur qu'ils prennent le dessus sur le haïku et les autres genres qui étaient déjà bien installés chez moi. Mais non, donc j'arrive à compartimenter, en fait, mon temps en fonction des genres poétiques.
J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, lorsque vous rentrez dans un endroit, que vous sentez un parfum, est-ce qu'il y a des parfums qui vous rappellent des souvenirs, que ce soit d'enfance ou de Roumanie ou d'autres ?
C'est une chouette question. Oui, en fait, il y a un, c'est l'odeur dans les épiceries, ici. Parce que j'avais connu cela au Maroc. J'avais vécu au Maroc pendant 2 ans, à Oujda, en accompagnant ma famille, mon père, ma mère et ma sœur. Et donc, c'est cette odeur d'épicerie quand on allait acheter des revues, des pifs. On achetait des pifs, je suis désolée. Oui. Et donc, il y avait cette odeur de bonbons, de chewing-gum. Et c'est une odeur indéfinissable. Je peux que la retrouver forcément que dans une épicerie de ce style, avec des bonbons. Ça, c'est quelque chose. C'est une odeur particulière. Sinon, une odeur de Roumanie... oui, peut-être l'odeur en automne des feuilles brûlées, lorsqu'on fait les feux et on brûle les feuilles quand on a nettoyé son jardin.
Vous parlez de chouettes questions. Votre plus belle qualité, c'est laquelle ?
Ouf. On va dire, j'essaye d'être... la générosité, on va dire cela. C'est le premier mot qui me vient. Et j'essaye d'être conciliable, on va dire. Vu que je regroupe des gens, donc il y a le Koukaï que j'organise, il y a différentes personnalités, différents caractères, et il faut vraiment combiner avec tout cela pour qu'après les gens disent merci pour cette organisation. On s'est bien senti pendant 2-3 heures, on a passé un bon moment, surtout un samedi. Il y a des gens qui viennent, qui n'habitent pas à Bruxelles, donc ils prennent le train, et donc je trouve cela vraiment touchant, et si j'arrive à réunir des gens comme ça, ça me fait très très plaisir.
Et votre plus gros défaut?
Je dirais... Par le prisme de l'écriture, je suis très dure avec moi-même. Et comme je suis très dure avec moi-même, je peux être assez dure avec tout ce qui touche au haïku. Quelqu'un m'avait demandé, samedi, on s'est retrouvés le 11 septembre pour le Koukaï, comment tu fais quand tu lis les textes ? Est-ce que tu tiens compte de la grille des règles de rédaction et des exceptions à chaque lecture de texte? Oui, je tiens compte à chaque lecture, surtout lorsque je dois faire une sélection. Mais cela ne veut pas dire que je suis dure pour être dure. J'essaie d'être correcte et respecter les personnes qui essayent d'écrire des haïkus selon les principales règles, mais aussi les exceptions, et ne pas faire cette fameuse phrase disposée sur 3 lignes qui arrive, hélas, trop souvent dans le haïku.
Est-ce qu'il y a des livres, ou peut-être un livre, un film, et peut-être une musique aussi, qui vous ont marqué, que c'est le genre de littérature, de film ou de musique que vous prendriez si vous devriez aller sur une île déserte?
Oui, en fait, pour remonter en arrière, ce serait La maison de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, que j'avais vue au théâtre en Roumanie, et j'avais pleuré en voyant cette pièce. En fait, le metteur en scène avait choisi, dans sa mise en scène, pour accentuer le côté tragique, de faire tomber des fruits sur la scène. Et cette idée que quelque chose tombe, comme dans la chanson d'Adamo, tombe la neige, tout ce qui tombe accentue un côté tragique d'une œuvre visuelle, un film, une pièce de théâtre, ou une chanson, pourquoi pas. Donc ce serait cette pièce de théâtre. Ensuite... il y aurait le film de dessin animé de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, qui m'a donné envie de m'intéresser au Japon bien avant de découvrir le haïku. Donc ce film, si on le regarde et si on ne connaît rien à la culture japonaise, on a un aperçu de leur façon d'être et de faire. Il faut bien le regarder attentivement. Donc c'est Le Voyage de Chihiro de Miyazaki. Et puis dans la littérature, il y en a plein, il y a plein de livres. Je ne peux pas citer un comme ça. Non, il y en a beaucoup trop.
Le Koukaï de Bruxelles, est-ce que c'est ouvert à tous? Par exemple, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont de Bruxelles ou pas, qui ont envie d'y participer, elles peuvent, ou bien il y a des règles à suivre, il faut qu'elles aient déjà écrit des haïkus?
Non, le Kukai est ouvert à tout le monde. Tous les niveaux d'écriture sont acceptés. Dernièrement, il y a une japonaise qui ne maîtrisait pas très bien le français. Elle était vraiment débutante dans l'écriture du haïku qui est venue. On a salué le courage en fait de cette dame. Donc tous les niveaux d'écriture sont acceptés. Voilà, l'ambiance est détendue. On choisit les textes, mais ce n'est pas une sélection, ce n'est pas un concours. Et d'ailleurs, lorsque je vais les compiler pour faire encore un recueil, il y a eu un premier qui a été édité chez un imprimeur, mais je pense faire un recueil, une anthologie du Kukai. Je ne reprends pas dans la présentation le nombre de voix que les textes ont obtenues. Il suffit que les textes aient obtenu une voix qui seront repris dans le livre. Éventuellement, à la fin, je reprends avec le nombre des voix. Mais l'important, c'est de sortir en fait, du virtuel, parce que beaucoup d'entre nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, et de nous voir en vrai, de casser un peu ce cercle du virtuel et de renouer avec une façon ancienne de se retrouver en fait, avec les cénacles littéraires d'avant. Moi, je suis très sensible à cette idée.
Quels sont vos projets? Vous avez déjà un nouveau livre en tête ou peut-être presque fini?
Oui, en fait, cette année, elle est très chargée. Il y a eu donc ce livre qui est paru en été, Maison d'été. Et puis, pour l'instant, je suis en train de travailler avec une maison d'édition de Rennes pour une anthologie avec des auteurs de haïku. Donc, je les ai réunis pour cette anthologie. Et il y aura aussi un deuxième recueil à moi qui va apparaître fin de cette année. Ce sera un recueil de haïku.
Et puisqu'on parle justement de haïku, on a parlé de maison d'été, moi j'aimerais bien que vous nous lisiez un ou deux extraits, histoire de nous donner envie peut-être d'aller chez notre libraire préféré et d'acquérir donc maison d'été.
Avec plaisir, et j'ai l'habitude aussi de demander, comme j'ai du mal à choisir, donc je vais vous demander de me donner un chiffre entre 7 et 63, ce sont les numéros des pages, pour que je puisse...
On va dire 17.
17, ok. Alors.
Et comme ça, vous choisissez la page 17, alors.
Voilà, donc 17. Et bien, justement, il y a 4 haïkus sur cette page et une jolie illustration. Heure chaude, le parfum des roses rouges est des plus forts. Rasé de près, qu'une fleur de liseron sur le gazon. Bouquet d'ombellifères, un parfum de miel offert par ma fille. Soleil d'été, les premières mûres noires brillent.
Merci à vous, Yocasta Huppens. Donc, on rappelle, hein, Maison d'été, ce recueil de poésie que vous devez absolument acquérir. C'est paru aux éditions belges Parti pour. Je vous remercie à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, comme vous avez aimé tous les autres, j'en suis sûr, eh bien, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Dites à tous vos amis que les interviews d'Éric Cooper existent. Et puis, merci de votre fidélité parce que vous êtes des dizaines de milliers déjà, puisque ça fait bientôt 4 ans que ce podcast existe et vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux sur plein de plateformes à nous écouter. Sur ce, je vous laisse. Merci de votre fidélité. Que la force soit avec vous et avec tous les autres et à très bientôt.
Ça y est, c'est fini.